Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h, le grand rendez-vous avec les échos.
De Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Bienvenue à tous et bonjour à vous. Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
C'est votre grand rendez-vous ce dimanche dans un contexte bien sûr d'offensive russe qui s'intensifie en Ukraine, de crainte partout en Europe et d'afflux également de réfugiés ukrainiens. Nous allons évoquer avec vous toutes ces questions de sécurité, de menaces et d'accueil aussi des déplacés. Nous serons également dans cette émission avec nos reporters, à la fois pour Europe 1, Nicolas Tonev qui sera à Kiev, Régine Delfour pour CNews qui sera à Lviv. Et puis il y a bien sûr un autre sujet, c'est la campagne présidentielle. Mais quelle campagne ? Gelée par des mois de Covid, désormais vitrifiée par la guerre en Ukraine, elle semble achevée avant même d'avoir commencé. Est-ce là la manière de voir les choses du candidat Emmanuel Macron? En tous les cas, tous les autres candidats alertent sur une campagne effacée avec tous les risques et potentielles conséquences sur notre démocratie. Nous allons bien sûr en parler. Tout d'abord, Gérald Darmanin, Vladimir Poutine compare les lourdes sanctions à l'encontre de la Russie à une déclaration de guerre. Si on alourdit encore de telles sanctions, sans compter la livraison d'armes, est-ce que définitivement, il va nous considérer comme directement en guerre avec lui, partie prenante directe de ce conflit? Est-ce là le risque?
La position de la France, comme des États occidentaux, comme les États européens en tout cas, c'est de fragiliser, d'affaiblir la Russie du président Poutine, parce qu'elle fait une guerre inacceptable à l'Ukraine, dans des conditions qui choquent, je crois, tous les Français. Mais nous ne sommes pas en guerre, comme l'a dit le président de la République, avec le peuple russe, évidemment, et avec la Russie. Donc il faut toujours être dans la désescalade et ne pas répondre à la provocation par de la provocation. Il faut très rapidement, d'abord, que nous puissions protéger au maximum les civils en Ukraine. C'est pour ça que le président de la République a raison de déployer autant d'énergie pour parler à Vladimir Poutine, malgré tout. Il faut prendre des sanctions économiques, diplomatiques, comme nous le faisons, pour affaiblir l'engagement russe en Ukraine. Et il faut éviter, bien évidemment, une guerre qui serait une guerre mondiale. Bien sûr, c'est ce que demandent, je crois, tous les peuples, et singulièrement le peuple français. Donc il ne faut pas répondre à la paranoïa ou à la provocation par de la paranoïa ou de la provocation.
L'objectif des sanctions économiques conséquentes contre la Russie est de faire plier Poutine. L'Union européenne prévient qu'elle pourrait être encore durcie. Jusqu'où cela peut-elle? On a l'impression que c'est sans limite, avec même un boomerang sur nous, un affaiblissement de nos économies potentielles. Est-ce qu'il n'y a pas de limite à ces sanctions aujourd'hui?
Les États, ils ont des âmes, contrairement à ce qu'on peut dire. Ils n'ont pas que des intérêts. Et nous avons effectivement une âme qui est celle d'aider le peuple ukrainien. Et oui, il y aura des conséquences sur la vie économique, sociale, française, européenne, évidemment. Et on pourra en parler. Et à mon avis, comme l'a dit le président également, pendant longtemps. Et il faudra les gérer. Mais est-ce qu'on peut rester égoïste derrière sa télévision et laisser un peuple, le peuple ukrainien, se faire bombarder, voire des millions de femmes et d'enfants surtout, quitter l'Ukraine dans des conditions d'ailleurs de froid et de faim, de pauvreté extrêmement forte, on ne peut pas. Donc il faut évidemment répondre. On ne peut pas amener la France, on ne peut pas amener l'Europe vers la guerre, personne ne le comprendrait, mais on ne peut
personne
pas non plus...
Personne ne le souhaite.
Personne ne le souhaite et personne ne le comprendrait, et on ne peut pas non plus ne rien faire.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus en matière de sanctions? Il y a déjà eu beaucoup de choses de mises sur la table.
D'abord, les sanctions que nous avons prises, je répète, elles ont été rapides. Tout le monde disait que l'Europe mettait beaucoup de temps à décider, qu'elle n'avait pas la puissance des régimes autoritaires, il y avait une crise de la démocratie libérale, que les souverainistes avaient raison. Bon, le constat, c'est que l'Europe fonctionne, elle fonctionne comme un continent politique, et c'est une très bonne chose. Ça donne aussi l'intuition que le président de la République et que la France, depuis longtemps, a la souveraineté européenne, la souveraineté de la défense européenne, bien évidemment, est à améliorer, sans aucun doute. Deuxièmement, nous allons déjà voir, et nous voyons déjà, les conséquences pour les Russes de ces sanctions, des sanctions économiques extrêmement fortes. Vous savez, on fait aujourd'hui la queue pour retirer de l'argent.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus, justement?
Il appartient au chef d'État de le décider. Encore une fois, je pense que la bonne mesure, et c'est pour ça que c'est difficile la diplomatie, et c'est pour ça que c'est difficile de gérer un pays, et c'est pour ça que c'est difficile d'être chef d'État. Il faut prendre des sanctions fortes, sans pour autant rentrer dans la provocation à l'égard de Vladimir Poutine.
Alors, vous évoquez justement le refus d'entrer dans la provocation avec Poutine, le fait qu'Emmanuel Macron lui-même garde un canal de communication avec Vladimir Poutine, mais qui dit ne vouloir négocier qu'à condition qu'on accepte toutes ces conditions. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'un tel dialogue en ce moment?
Mais là, on est dans une guerre psychologique. Voilà. Et M. Poutine essaye de pousser son avantage, alors même qu'on voit bien que les choses ne se déroulent pas pour lui comme prévu. Voilà. Et qu'il a lui-même affaire sans doute à une politique intérieure très difficile. Plus il prend de lois restrictives des libertés dans son pays, plus il prend de mesures exceptionnelles économiques pour son pays, plus ça montre, vous le savez bien, que les choses ne sont pas simples en Russie. Donc, quelque part, l'augmentation du ton de M. Poutine est la démonstration du fait que les sanctions et que la façon dont l'Europe et les États-Unis fonctionnent, la communauté internationale fonctionne, font mal à l'action de Vladimir Poutine. Mais oui, il faut continuer à parler au président Poutine. Bien évidemment, puisque la seule solution, si ce n'est pas la guerre, c'est la diplomatie. Il faut qu'il se rende compte que ce qu'il fait n'est pas juste pour l'ordre mondial, touche des populations civiles, attaque la souveraineté d'un État. Et manifestement, il a perdu déjà la bataille de l'opinion mondiale. Il est au banc des nations.
Est-ce qu'il s'en soucie vraiment, pardonnez-moi, parce que là, la réalité aujourd'hui, ce sont des villes bombardées, comme vous l'avez dit, des millions de déplacés, un Poutine plus déterminé que jamais et qui n'entend parler qu'à ses conditions. Donc tout ce dont nous sommes en train de parler, n'est-ce pas du vent finalement et un aveu d'impuissance avec nos manifestations, nos drapeaux et nos bougies, encore une fois?
Non, mais il y a la mobilisation de la société civile, elle est souhaitable, il faut l'encourager, mais évidemment, c'est l'action des États et l'action des économies qui font plier le plus des personnes qui, manifestement, n'ont pas tout à fait le même regard sur le monde que l'ont des États européens ou des États occidentaux. Il faut aussi comprendre la psychologie, évidemment, des chefs d'État qui sont ceux de la scène internationale. C'est pour ça que c'est dur, encore une fois, d'être chef d'État. Mais regardez, on a déjà pris des sanctions contre des pays qu'on a mis au banc des nations, et parfois on obtient des accords, ou en tout cas on obtient des avancées. Je pense à l'Iran.
Oui.
L'Iran, nous ne sommes pas en guerre contre l'Iran.
Mais là, nous avons
pris des sanctions. Nous avons pris des sanctions extrêmement fortes contre l'Iran. Et l'Iran, même si c'est extrêmement difficile, même si c'est extrêmement dur, même si on n'a pas évidemment toujours les bons résultats, l'Iran discute, parce qu'il faut continuer à discuter avec l'Iran. L'Iran discute notamment de la question nucléaire. Donc il faut prendre des sanctions sans être en guerre. C'est ça qui est difficile.
Envisagez-vous un scénario où le dialogue n'est tout simplement plus possible avec Vladimir Poutine ?
Mais le principe de la désescalade, ce n'est pas d'évoquer des scénarios de l'escalade. Voilà. Donc je pense qu'il faut accepter l'idée que René Girard ait raison, que la violence mimétique amène toujours vers encore plus de violence. Donc je crois que la position du président, elle est très girardienne, si vous me permettez cette expression. Elle consiste à ne pas augmenter dans les provocations et à chaque fois essayer d'apaiser, de continuer à parler et de donner une chance à la diplomatie.
Voilà. Il faut,
bien sûr que c'est très difficile, mais je constate juste quelques instants que le président de la République française est à ce point d'équilibre, de protection de l'Ukraine, de protection des populations ukrainiennes, de condamnation sans aucun embâge de ce que fait Vladimir Poutine, mais en même temps de laisser une chance à la diplomatie et d'éviter la guerre, bien sûr.
Ceux qui nous regardent ce matin et nous écoutent voient quand même une distorsion entre les images qui défilent de villes bombardées, parfois même effacé avec ce risque-là, et puis des discussions dont on retrouve les bribes de conversation dans la presse. On est saisi, il y a même une forme de sidération entre la réalité de ce qui se passe et un dialogue qui, pour l'instant, bon, on a du mal à voir comment il peut aboutir aux conditions du président russe.
Bon, le conflit, ça fait à peu près une quinzaine de jours, une vingtaine de jours qu'il existe. Il y a des conflits qui durent depuis des années, vous le savez bien. Ce qui est sûr, c'est que ce que nous vivons, indépendamment du terrible sort que vit le peuple ukrainien, c'est aussi des phénomènes médiatiques nouveaux. Il faut désormais savoir que lorsqu'il y aura des conflits, un conflit d'ailleurs assez conventionnel pour l'instant, avec des armes, des chars, des populations bombardées, des avions, c'est-à-dire un conflit comme avant, il est à la fois en direct sur les plateaux de télévision, en direct sur Internet. Le président Zelensky, le général de Gaulle, il allait à Londres à la radio, il utilisait les moyens modernes de l'époque pour parler à la population française et mondiale. Le président Zelensky, il prend son téléphone et il parle sur les réseaux sociaux en direct. Voilà la révolution numérique que nous connaissons.
Vous comparez les deux formes de résistance.
Mutatis mutandis, mais tout le monde voit bien que M. Zelensky est extrêmement courageux. Je veux dire que les moyens technologiques d'aujourd'hui permettent de mener une autre guerre, qui est la guerre de l'opinion et la guerre médiatique. Là aussi, les Français le voient. Ils voient le président Zelensky en train de parler. Ils voient,
Son ton monte contre nous. Il dit que personne ne l'aide, au fond.
Il est en guerre et il est dans des conditions d'attaque de son pays et de son peuple inacceptables. Chacun peut le comprendre. Voilà. Mais il y a aussi des attaques, ce qu'on appelle hybrides, il faut que les Français le sachent.
Nous allons parler, monsieur le ministre, parce que nous sommes en direct et comme les liaisons sont compliquées avec notre reporter, je vous remercie, Nicolas Tonev, qui est à Kiev. Kiev, vous le savez, qui est encerclé et bombardé. Nicolas, quelle est tout simplement la situation autour de vous? Vous êtes arrivé tout à l'heure dans la ville. Que constatez-vous?
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors écoutez, c'est une situation contrastée hein, dans le centre où je me trouve maintenant. C'est le calme qui règne, hein, ce que l'on vit ici et ce que l'on sent de la guerre. Du coup, ce sont les alertes, ce sont les checkpoints, ce sont les blocs de béton, les soldats qui sont partout à surveiller les rues et puis bien sûr l'angoisse des gens pour trouver des magasins ouverts et faire les courses. Mais pour ce qui est des dégâts visibles et des bruits de la guerre, cela se passe pour l'instant surtout sur les zones extérieures. Hein. Et ce qu'il faut s'imaginer, c'est que Kiev est une ville extrêmement étendue, elle fait à peu près 800 km², c'est 8 fois plus que Paris. Hier, quand j'arrivais par le sud, c'était une bonne vingtaine de kilomètres du centre que l'on entendait les bombardements. Et le gros des dégâts, donc de la pression russe pour l'instant, hein, toujours pour faire sauter les défenses, eh bien, se passe en périphérie, surtout sur le nord. Donc actuellement, en fait, l'encerclement n'est pas total. Hein, le filet russe ne s'est pas totalement refermé, ce qui fait que l'exode, et c'est très très impressionnant, hein, l'exode continue. Ce sont des milliers de voitures remplies de familles de toutes les générations qui fuient le plus vite possible avant que justement la nasse russe ne se referme sur la ville.
Merci à vous, merci Nicolas Tonev. On remercie évidemment tous nos reporters hein, sur le terrain dans les conditions difficiles pour faire leur travail. On marque une courte pause, Gérald Darmanin continue à évoquer ce dont vous parliez, avec aussi cette guerre de l'information, de la désinformation et les risques aussi de cyberattaques. A tout de suite, on vous retrouve sur CNews et Europe 1.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet.
Mathieu Bock-Côté.
Sonia Mabrouk.
Le grand rendez-vous en grande partie consacré à la situation ukrainienne et à ses conséquences. Cécile Cornudet, une question au ministre.
Oui, Gérald Darmanin. Est-ce qu'il y a de plus en plus de Français qui partent combattre en Ukraine, qui sont tentés de le faire? Est-ce que vous les surveillez? Est-ce que vous savez quel est leur profil?
Non, il y a très peu de Français à notre connaissance. Il y a manifestement, ici ou là, des volontés, ce qu'on appelle des velléitaires dans le langage des services de renseignement, mais il y en a très très peu.
Il faut les laisser faire ?
La volonté est plutôt d'empêcher d'aller rejoindre un front de guerre, parce qu'une fois que les gens ont connu des scènes de guerre, une fois qu'ils ont connu la mort, la détresse, les atrocités, et qu'ils reviennent sur le territoire national, c'est jamais un très bon signe psychologique pour un peuple. Hein. Les militaires sont formés pour ça, si j'ose dire, et c'est déjà très difficile. Donc il faut plutôt, et c'est plutôt ce qu'on essaye de faire, d'empêcher les départs, mais encore une fois, il y en a très peu.
Alors, la frappe sur une centrale nucléaire en Ukraine a sidéré le monde, sidéré l'Europe, sidéré l'Occident. Est-ce que vous redoutez un accident nucléaire tôt ou tard dans les jours, dans les semaines à venir?
Je crois que la préoccupation est très grande de la communauté internationale. Il y a eu une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur ce point à la demande de la France et de ses partenaires. Le président de la République lui-même, vous avez vu, s'est exprimé officiellement et a contacté l'agence internationale qui s'occupe de ce sujet. L'agence de sûreté nationale française a mis en place, à la demande du président, tous ses capteurs pour voir s'il n'y avait pas eu de conséquences. De ce que j'en comprends, je n'en suis pas spécialiste, mais il n'y en a pas eu. Mais évidemment, c'est un sujet très important. Il y a 5 grandes centrales nucléaires civiles en Ukraine. Et l'une des préoccupations du président de la République, lorsqu'il parle au président Poutine, par exemple, c'est de garantir, effectivement, de laisser aux Ukrainiens ces centrales nucléaires et de ne pas les toucher, bien évidemment. Ça sert à ça aussi de parler au président Poutine.
Et on passe de l'accident nucléaire à la menace nucléaire. Lorsque Vladimir Poutine ouvre la possibilité de la menace nucléaire aujourd'hui, c'est une menace que vous prenez pour une forme de bluff, comme certains le suggèrent, ou vous la prenez au sérieux?
Non, mais je pense que Jean-Yves Le Drian s'est très bien exprimé sur ce point. D'ailleurs, je voudrais rendre hommage au travail qu'il fait pour à la fois rassurer la communauté française, mais aussi faire ce travail diplomatique. Il a dit les mots justes. Il a dit que c'était totalement inadapté, que c'était de la provocation et que c'était encore un phénomène escalatoire. Une sorte de violence, encore une fois, mimétique. Donc il ne faut pas rentrer, à mon avis, dans ce débat.
Ce qu'on veut savoir, rien n'est à
exclure. De ce débat, de cette provocation du président Poutine.
Darmanin, mais bien vous savez, il ne faut pas rentrer, mais il y a quelqu'un qui est prêt à aller peut-être jusqu'au bout. Donc il y a une inquiétude, une angoisse.
Je la sous-estime absolument pas. Vous savez, je suis un élu local. Hier, j'étais toute la journée dans le Nord, dans ma commune à Tourcoing. J'ai bien senti que la population française, les Tourcoinois, posaient des questions sur les risques de guerre. Évidemment, avoir une guerre avec la Russie, pour l'Ukraine, c'est pas anodin. Voilà, ça correspond à des images très anciennes, à ce qu'on voit dans les films, aux scénarios catastrophes, des conséquences sur l'énergie. Au salon de l'agriculture, les agriculteurs du Nord évoquaient évidemment la question des céréales, la question des exportations. Il y a tout un tas d'angoisses qui se posent dans le peuple français, bien évidemment. Tout le monde parle de ça. Mais le rôle des chefs d'État, le rôle des responsables politiques, c'est justement d'essayer de rassurer sur cette angoisse, de dire que les choses sont difficiles, mais qu'on déploie matin, midi et soir notre énergie pour que la paix l'emporte à la fin. Voilà. Donc je sais qu'il y a une angoisse, mais notre travail, ce n'est pas de rajouter de l'angoisse à l'angoisse. Notre travail, c'est d'essayer d'apaiser, de rassurer, de tenir le rang de la France dans le monde, dans le concert des nations et de faire le travail que fait le président de la
Peut-être
République.
Peut-être une question que nos compatriotes se posent. Est-ce que finalement, par rapport à tout ce qui est en train de se passer, l'une des cartes, ce serait d'espérer, est-ce que nous en sommes là, une révolution de palais, voire plus, disent certains, une neutralisation de Vladimir Poutine. Est-ce que la question se pose ou est-ce qu'elle vous choque?
Non, mais là encore, je pense que le principe de la désescalade, ce n'est pas faire des provocations d'un côté et de l'autre de l'Ukraine. Vous savez, la difficulté de notre situation, c'est que la Russie, l'Ukraine, c'est l'Europe. C'est culturellement l'Europe, en tout cas. Le général de Gaulle disait de l'Atlantique à l'Oural. Les Français le savent bien, c'est bien que où vont les millions de réfugiés aujourd'hui? Ils vont en Pologne, ils vont en Hongrie, ils prennent l'avion de Ryanair de Varsovie pour ensuite venir à Beauvais, les réfugiés ukrainiens. Ils les voient, c'est à côté de chez nous. Et donc cette angoisse de guerre qui touche tous les conflits mondiaux est encore plus aggravée du fait que c'est sur notre continent, à quelques heures. Enfin, quiconque est allé une fois peut-être à Kiev ou à Moscou comprend que c'est une Europe.
C'est une Europe un peu différente. Sont sur la table.
C'est une Europe un peu différente que celle que nous connaissons en France, mais c'est une Europe quand même, il n'y a aucun doute. Donc on voit bien que c'est un conflit qui touche la famille européenne. Donc je pense qu'il ne faut pas rentrer dans l'escalade, même si on a tous envie de dire, ben voilà, il faut que ça s'arrête très vite en Russie pour le président Poutine. Ce n'est pas la question. Notre travail, c'est, le président Poutine est un dirigeant mondial qui a une grande expérience, c'est de retrouver la raison le plus possible et de lui offrir une sortie. Parce que je crois que l'une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'on voit bien qu'il y a une forme, en tout cas on peut le deviner, c'est ce que disent aussi les Français, une forme d'enfermement du président Poutine. Soit il va jusqu'au bout à la guerre en Ukraine et il est totalement au banc des nations et il fait des massacres civils.
Jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Jusqu'au bout, c'est-à-dire annexer toute l'Ukraine.
Même le bombardement des populations civiles. Mmh. Voilà, c'est ça qui est absolument inacceptable. Ou alors il se retire. Parce que simplement on lui a dit qu'il fallait qu'il se retire, et donc évidemment, on imagine peu le président de Poutine le faire directement. Donc il faut une solution diplomatique, et c'est ça l'action des chefs d'État, c'est de trouver des solutions à des problèmes qui paraissent insolubles.
Il y a une dimension cyber dans l'attaque de Vladimir Poutine. Est-ce que du coup vous avez des inquiétudes de ce point de vue-là sur la campagne présidentielle française ?
Alors, nous sommes en tout cas extrêmement vigilants. Donc, il y a deux types de possibilités. Il y a la propagande extérieure qui vient bousculer la vie démocratique. Alors, pas que française, il y a des élections en Hongrie, il y a des élections à Malte, mais évidemment en France. De ce point de vue, nous sommes préparés. Le président de la République, dans un conseil de défense, voilà quasiment deux ans, a demandé la création de Viginum, qui est auprès du secrétaire général de la Défense nationale et dont le travail, c'est de percevoir désormais les venus de l'extérieur de propagande pour essayer de démêler le faux du vrai. Ça a été fait d'ailleurs en parfaite connaissance de tous les partis politiques. Et puis il y a les attaques cyber, au sens changement, impossibilité d'organiser des élections par exemple. Donc ça c'est le travail du ministre de l'Intérieur. Moi tous les deux jours je réunis l'ensemble des directeurs du ministère de l'Intérieur sur tous les sujets qui nous concernent et ils sont nombreux. Et nous nous protégeons au maximum évidemment et nous avons des scénarios évidemment si jamais nous devions voir des attaques qui pour l'instant n'existent pas contre le système du ministère de l'Intérieur.
Il y a beaucoup de réunions, mais pour quel résultat concret ?
Et nous sommes prêts. Ben pour l'instant, vous savez, la campagne présidentielle se déroule comme prévu. Pour l'instant, je constate que les attaques cyber n'ont pas touché la France, même si elle en a eu. Elle a su se protéger, voilà, que les aéroports fonctionnent, que les hôpitaux fonctionnent.
Il n'y a pas des personnalités ciblées.
Et il faut faire attention à tout. Après, le principe de ce genre de choses, c'est de ne pas dévoiler nos propres versions défensives. Mais en tout cas, je peux vous assurer qu'on y travaille matin, midi et soir.
Alors, vous avez dit quelque chose de très intéressant, très important. J'aimerais y revenir. Vous avez parlé de désescalade, de solutions diplomatiques, de trouver une porte de sortie pour Vladimir Poutine. À travers tout ça, est-ce que ça veut dire, à terme, une réintégration de Vladimir Poutine dans le concert des nations et une poignée, pardonnez la formule, une poignée de main avec lui au moment de rétablir la paix?
Vous voyez que là, on n'en est ni là.
Non, mais pourtant, vous y êtes.
Et je ne suis pas en position, moi, de le faire. Mon travail, c'est d'être ministre de l'Intérieur. J'ai beaucoup de questions qui relèvent de la crise ukrainienne. On pourra en parler dans quelques instants. Mais pas de ces sujets qui relèvent du chef d'État. Ce qui est sûr, c'est que le président de la République, encore une fois, a raison. C'est un des seuls chefs d'État encore à pouvoir parler directement au président Poutine, à parler au président Zelensky, à parler au président Biden. Parce qu'il est la présidence de l'Union européenne.
Parler, c'est
mais
bien.
Aussi, mais parler,
non, mais
parler
très
c'est
bien,
beaucoup.
Mais là, on dirait que vous nous faites la campagne.
Non,
nous,
non.
La question, c'est comment on sort vraiment d'un conflit qui risque d'être mondial. C'est
mais je
ne
comprends pas cette question de on en parlera tout à l'heure, si vous savez, mais cette question de campagne. Demain, dans un mois...
Vous avez cité 10 fois le président de la République,
oui.
Vous avez raison. Mais
Mois, mais Madame Mabrouk, dans un mois, il y aura à nouveau, peut-être, président de la République. Il va devoir gérer ça. Gérer les crises internationales, c'est le travail du président de la République. Gérer l'armée française... C'est le travail du président de la République. Je ne comprends pas cette question de campagne confisquée. C'est un sujet évident tout de suite. En 2012, le président Sarkozy, l'affaire Mera, au mois de mars, l'affaire Mera n'était pas encore arrivée au moment où nous étions en campagne électorale. Et il a eu à répondre aux questions de terrorisme. Bon, bah, c'est évidemment une question, on l'a vu pendant tout le quinquennat du président Hollande, qui s'est imposé au président Hollande. Et donc oui, le prochain président de la République, moi j'espère que ce sera Emmanuel Macron, mais le prochain président de la République aura à travailler avec M. Poutine, si j'ose dire, à travailler avec M. Zelensky, à travailler avec M. Biden, et à régler les problèmes internationaux. Ce n'est pas qu'une réforme des retraites et la question des dotations des collectivités locales. Une présidence de la République, c'est une grande puissance nucléaire qui a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pour ça qu'on ne peut pas y élire n'importe qui.
Bien sûr. Et pour l'heure, vous êtes en charge, Gérald Darmanin, d'une question hautement importante, sensible et humaine, c'est celle des réfugiés. Autre reporter sur le terrain, nous allons aller dans la ville de Lviv avec Régine Delfour pour CNews. Régine, cela fait des jours que vous suivez en fait, des familles, que vous voyez cet afflux de réfugiés qui ne se tarit pas, qui continue encore aujourd'hui, peut-être même il est de plus en plus important.
Oui, Sonia, ça fait maintenant désormais 8 jours que nous sommes à Lviv. Nous étions avant en Pologne. Là, nous sommes à Lviv et la situation devient de plus en plus compliquée face au nombre de réfugiés qui arrivent vraiment en masse, qui fuient les bombardements. Donc, il y a un problème pour les accueillir, pour les loger. Certains endroits, comme ici, dans ce théâtre, ont été transformés en dortoirs, en centre d'accueil où il y a un point sanitaire, ils peuvent prendre des douches, il y a une cuisine, ils peuvent se restaurer. Alors, évidemment, Sonia, énormément de femmes sont présentes, puisque comme vous le savez, les hommes sont obligés de se mobiliser. Nous avons échangé avec ces femmes qui viennent de Kiev, qui viennent de Kharkiv, qui sont désemparées puisqu'elles ont dû laisser leur mari, mais elles veulent absolument mettre leurs enfants en sécurité, notamment en Pologne ou encore dans les pays limitrophes comme la Slovaquie ou encore la Hongrie.
Merci à vous, Régine Delfour. On remercie également Fabrice Elsner. On va s'arrêter sur cette question, Gérald Darmanin. On va marquer une pause et puis on va évoquer ce flux. C'est jusqu'à 10 millions de déplacés potentiellement qui peuvent arriver. Pologne, pays frontalier, mais aussi la France, notre rôle. Une pause et on parle de ce sujet et d'autres. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet.
Mathieu Boccoté.
Sonia Mabrouk.
Et notre invité ce dimanche, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avec une question hautement sensible et humaine, évidemment, c'est l'accueil des réfugiés ukrainiens. Cécile Cornudet.
Oui, parce que potentiellement, il pourrait y avoir jusqu'à 10 millions d'Ukrainiens qui fuient leur pays. Mais déjà à Calais, près de 400 Ukrainiens voudraient rejoindre leur famille et elles n'y arrivent pas parce que le gouvernement anglais fait traîner les visas, etc. Vous avez dénoncé le manque de coopération de l'Angleterre. Est-ce que c'est volontaire de la part du gouvernement?
Alors, je n'ose le croire. Je sais que les Britanniques ont de l'honneur et que le gouvernement britannique tient toujours ses promesses. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a 2500 grosso modo Ukrainiens qui sont arrivés sur le territoire national français depuis cette crise. Ce n'est pas beaucoup. Et souvent, c'est pour rejoindre leur famille, soit en France, soit d'aller, profitant de la France, en Espagne ou Portugal, où il y a des communautés ukrainiennes assez fortes, soit en Grande-Bretagne. Et sur les 400 personnes, il y en a 150 qui n'ont pas pu aller directement. Ils sont encore bloqués en Angleterre, tout ça parce qu'ils n'avaient pas le visa. Alors, il faut savoir que quand ils ont le passeport biométrique, ils peuvent circuler dans l'espace européen sans visa. Et quand ils n'ont pas de passeport biométrique, ils ne peuvent pas circuler sans visa. On voit bien qu'il y a des circonstances...
C'est un prétexte, vous avez l'impression ?
Des circonstances exceptionnelles, voilà, qu'il faut arrêter le tatillonnement bureaucratique.
Vous avez dénoncé le manque d'humanité
de Londres. J'ai appelé deux fois mon homologue britannique avant de lui écrire cette lettre, dont la presse a eu connaissance. Je lui ai demandé d'installer à Calais un consulat qui puisse prendre les papiers des gens, leur faire leur visa, c'est normal. On ne rentre pas dans un pays n'importe comment. Mmh. Enfin, qu'on puisse le délocaliser, puisqu'aujourd'hui, l'Angleterre dit qu'ils aillent à Bruxelles ou à Paris. Alors vous imaginez 4 gamins, parfois des enfants handicapés, dans une voiture, repartir après avoir fait Kiev, Calais, en voiture, on vous demande de faire Calais, Paris ou Bruxelles. Bon, c'est un peu inhumain. C'est vraiment Kafka, là, pour le coup. Et donc on leur a dit, installez en Angleterre, on vous prête la sous-préfecture pour mettre, si vous le souhaitez, une antenne consulaire.
Ils ont répondu quoi ?
Pour l'instant, c'est on va voir. Ça fait maintenant 4 jours. Je voudrais remercier la maire de Calais et la sous-préfète de Calais qui accueillent ces familles dans des conditions difficiles, mais Natacha avec Bouchard. Beaucoup d'humanité. Voilà, Natacha Bouchard. Maintenant, ça suffit. Voilà, il faut que les Anglais mettent en lien leur discours. J'ai entendu les grands discours généraux de M. Johnson et les faits. Aujourd'hui, il y a 150 familles, notamment des enfants, qui sont bloquées à Calais. J'espère que cette émission va permettre aux Anglais d'ouvrir un peu les bras et d'arrêter de faire du tatillonnement technocratique.
Ça veut dire qu'ils ne veulent pas accueillir les réfugiés ukrainiens. On a du mal à croire que 400 familles soient bloquées et qu'on ait du mal à...
J'imagine...
On demande un visa quand même à des réfugiés.
Non, mais je pense que c'est... Je crois que c'est l'administration dans tout ce qu'elle a le plus tatillonne et ça peut arriver en France.
Ce n'est pas politique, alors.
Je l'espère pas. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pousserait une nouvelle fois des gens de prendre des small boats pour traverser l'Angleterre. C'est absolument pas ce que... La Manche, pardon. C'est absolument pas ce que veut, j'imagine, le gouvernement anglais, puisqu'il dénonce ces small boats. Donc voilà, j'espère qu'il n'y a pas de cynisme. Franchement, j'ai une très bonne relation avec Mme Patel. Je suis sûr que c'est une femme de bien. Elle va résoudre ce problème, mais il faut qu'elle le résolve vite maintenant.
Alors, il y a un accueil, en ce moment, une volonté d'accueil très forte en France par rapport aux réfugiés ukrainiens. Êtes-vous surpris? Parce que normalement, il y a des réserves assez marquées envers les mouvements migratoires, envers les mouvements des réfugiés, les clandestins, les termes sont nombreux. Là, êtes-vous surpris de la volonté d'accueil très forte en France par rapport aux réfugiés ukrainiens?
C'est vous qui êtes surpris, hein, c'est pas moi.
Ah non, plusieurs sont surpris.
Ouais. Marine Le Pen, j'ai constaté.
Je confesse une surprise qui est présente dans l'espace public. Je vous demande si vous l'êtes
non,
aussi.
Non, c'est vous-même, puisque vous le dites très souvent. Moi, je ne suis pas surpris de la générosité, de la solidarité du peuple français. Je suis très choqué d'ailleurs que Mme Le Pen puisse dire les Ukrainiens, on les accueille, mais pas les autres. Bon, je ne suis pas du tout surpris. On a accueilli depuis 2015 2,5 millions en Europe de réfugiés. Des Irakiens, des Syriens, des Afghans. Regardez ce qui s'est passé pour...
Vous allez nous dire que vous réservez le même accueil.
Mais nous avons accueilli,
mais
la France...
Il y a deux poids, deux mesures, c'est évident.
Non, je crois qu'il y a une différence.
Si vous voulez qu'on aille plus loin, parce que certains disent que c'est des réfugiés qui sont blancs, qui sont chrétiens, c'est une immigration européenne qui n'est pas la même.
Encore une fois, je pense que vous répétez votre propre point de vue. Moi, je constate...
Absolument pas, ne nous faites pas ce procès, je vous pose une question, vous l'avez entendu dans le débat public et politique.
Mais moi, je constate la solidarité des Français. Moi, j'ai d'autant plus que j'étais maire en 2015 de Tourcoing. Tourcoing a accueilli... des Afghans, des Syriens et des familles françaises venaient demander de le faire. Voilà. Alors après, il y a aujourd'hui en Ukraine une situation, encore une fois, qui est européenne. Les réfugiés sont à côté de chez nous. Quand ils quittent l'Ukraine, c'est pour venir en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie. C'est effectivement pas tout à fait pareil que quand ils quittent l'Afghanistan pour aller en Turquie. On pourrait aller au Pakistan.
Bon, on se souvient des phrases du président qui avait dit qu'on ne pouvait pas accueillir évidemment tout le monde. C'est pour ça qu'on vous met en contradiction.
C'est pareil pour les Ukrainiens, on ne peut pas accueillir tout le monde.
Et
mais
la
on va accueillir notre part.
La présidence française de l'Union européenne, ça devait justement réformer Schengen pour contrôler davantage nos frontières.
Mais vous avez vu,
vous avez quand même changé de ton.
Mais non, mais pas du tout. Regardez ce que nous avons fait jeudi au Conseil des ministres de l'Intérieur européen. Alors, la presse en a très peu parlé, mais c'était un pas magnifique et de géant. En 4 jours, on a su débloquer une protection temporaire, c'est-à-dire qu'on ne donne pas l'asile aux gens, parce qu'ils ont une vocation à retourner dans leur pays quand ce sera la paix. Donc en plus, on n'est pas naïf, on ne donne pas l'asile à tous les Ukrainiens. On leur donne une protection temporaire. En 4 jours, l'Europe l'a décidé pour toutes les personnes qui fuient l'Ukraine, non seulement les Ukrainiens, mais également les étrangers qui se trouvent également en Ukraine. Il y a des étrangers qui se trouvent en Ukraine. L'Europe a été rapide, a été efficace, et par ailleurs, on a réaffirmé des contrôles d'identité. Évidemment que tout Ukrainien, toute personne qui vient d'Ukraine, qui arrive sur le territoire européen, doit être contrôlée, regarder s'il ne s'agit pas, ici ou là, de passagers, entre guillemets, clandestins, qui voudraient commettre des attentats à d'autres pays. On peut penser à une partie radicalisée de Tchétchène, par exemple. Donc on a à la fois plus de contrôles...
Il y a un vrai risque sur ce dont vous...
La grande confiance n'exclut pas un petit
la
contrôle. Voilà. Donc, ce que font les Polonais, c'est remarquable ce que font les Polonais. Les Polonais, les Hongrois, les Roumains. Je vais d'ailleurs jeudi à la demande du président de la République en Pologne et en Roumanie pour apporter une nouvelle fois le soutien, comme l'a fait Jean-Yves Le Drian de la France, et notamment un soutien de sécurité civile. 40 tonnes de médicaments et de tentes qui sont arrivées, par exemple, en Pologne. Je veux dire que les Polonais, dont on disait d'ailleurs beaucoup qu'ils refusaient...
Vous disiez beaucoup.
Dont on disait beaucoup qu'ils refusaient.
Vous nous avez dit c'était le vôtre. Vous disiez sur la Pologne qui n'accueille pas, qui ferme. Aujourd'hui, elle accueille à bras ouverts et on s'en félicite tous, d'ailleurs.
Y compris très récemment, parce qu'il y a eu des polémiques sur des prétendues discriminations à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, en disant qu'ils acceptaient les Ukrainiens, mais pas, par exemple, les personnes de couleur noire. Bon, d'abord, je constate que le Haut Conseil du réfugié lui-même a dit que ce n'était pas vrai. Je n'ai aucune information dans ce sens. Nous avons posé la question au ministre polonais au Conseil européen. Il a évidemment évoqué le fait que ce n'était pas vrai et que par ailleurs, c'était sans doute une propagande russe pour diviser les Européens. Donc nous ne nous divisons pas à ce moment précis. Mais justement, nous faisons des pas de géant, si j'ose dire, comme économiquement on l'a fait pendant la crise Covid sur la dette commune. Nous faisons des pas de géant sur la protection des frontières et notre politique unique d'asile en Europe à la faveur d'une crise. On peut toujours regretter que l'Europe avance que par les crises. Mais regardez ce qui s'est passé cette semaine. Deux conseils des ministres de l'Intérieur européens ont obtenu un accord en 4 jours.
Peut-on parler de cet accord? Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme d'asile, donc désormais accordé aux Ukrainiens? Je crois que c'est valable pendant 6 mois, renouvelable jusqu'à 3 ans. Pourquoi pas une demande, un asile traditionnel, finalement?
Parce que l'asile traditionnel, c'est la vocation de rester durablement sur le territoire national. Quand vous des opposants iraniens, la possibilité de retrouver un gouvernement démocratique en Iran est assez lointain. Donc nous accordons l'asile. Si demain il y avait des dissidents russes qui condamnent fortement M. Poutine qui serait en danger, un pays qui demanderait l'asile en France, on leur accorderait évidemment. malgré ce qu'on peut espérer comme changement de la politique russe, ce ne sera pas forcément demain la veille. En revanche, on a tous vocation à voir que l'Ukraine, et c'est pour ça qu'on se bat, reste un État souverain dans lequel les Ukrainiens vont décider de leur avenir. Donc c'est une protection temporaire, effectivement, entre 6 mois et 3 ans. Si au bout de 3 ans, la situation dure, eh ben, nous regardons ce qu'on peut faire pour faire l'asile, évidemment. Mais 3 ans,
ça nous paraît... Qu'est-ce que ça leur donne accès en droit, en prestations en France ?
D'abord, ils peuvent ramener, s'ils le souhaitent, leur famille, y compris leur famille si elle est étrangère. Deuxièmement, un accès au logement. Troisièmement, un accès à ce qu'on appelle l'ADA. C'est un minimum social d'à peu près 400 euros hein, pour survivre. Donc, c'est vraiment pas grand-chose, mais ça existe bien sûr. Qu'ils peuvent travailler. Ce n'est pas le cas des demandeurs d'asile. Hein. Les demandeurs d'asile ne peuvent pas travailler pendant la demande d'asile. Là, ils peuvent travailler. Donc, vous voyez, c'est une protection qui est d'ailleurs valable pour tous les pays européens. Donc, il n'y aura pas de concurrence entre l'Italie, la Pologne, la Hongrie, la France pour savoir lequel est le mieux-disant social. Voilà. Et parfois, on a ce débat public qui existe. Ce sera la même protection partout sur le territoire européen. Encore une fois, je pense que ça montre l'humanité et la non-naïveté de l'Europe, qui a été extrêmement efficace.
Et à l'instant, c'est l'ONU qui précise qu'en 10 jours, ce sont plus de 1,5 million de réfugiés et de déplacés. Vous avez indiqué aussi, Gérald Darmanin, que c'est une guerre de l'information et de la désinformation. Il y a eu la fermeture, notamment en France, de la chaîne RT France. Il y a le site Spoutnik. Est-ce que vous considérez que ce sont des, je mets ça entre guillemets, des armes de guerre, de désinformation et de propagande, selon vous ?
Évidemment.
Sans aucune nuance.
Écoutez, moi, j'avoue que je regardais peu RT et peu Spoutnik, mais vu les débats médiatiques et débats politiques, je me suis amusé à regarder ça. Voilà, j'ai vu un reportage délirant expliquant que c'est les Ukrainiens qui massacraient leur population avec des journalistes français, d'ailleurs, qui l'évoquaient sans coup faire rire, avec une désinformation qui correspond, moi qui ai accès à certaines informations de par ma fonction, totalement fausse. Voilà, et dont il n'y a aucun doute qu'un journaliste qui fait son travail, comme le font tous les journalistes français de façon objective, même s'il y a forcément un petit peu d'opinion, et c'est normal qu'il se déploie. Et là, on voit bien que c'est une arme totalement au service d'un État étranger à qui, certes, nous ne faisons pas la guerre, mais à qui nous sommes rentrés dans une forme de conflit politique. C'est, chacun le constate. Voilà.
Et est-ce qu'il peut y avoir la même surveillance sur les réseaux sociaux
je constate d'ailleurs que l'Allemagne l'avait fait avant nous. Hein. C'est-à-dire que l'Allemagne, qui est une grande démocratie aussi, avait coupé... Vous savez bien, le fil pour
RT. La décision est venue de l'Europe, hein, de l'Union européenne.
Oui, mais l'Allemagne l'a fait avant nous. Mmh. Et puis ensuite, l'Europe l'a fait à la demande du président de la République. C'est une très bonne chose, bien évidemment. Donc, bien sûr, ce sont des outils de propagande inacceptables.
Voilà. Mais est-ce que RT et Spoutnik causaient déjà problème auparavant ou c'est simplement des situations de conflit qui font en sorte qu'on doit les fermer aujourd'hui ?
La démocratie, la grandeur de la démocratie française, c'est pour ça qu'on est un peu loin des débats sur y a-t-il une dictature sanitaire en France ? Chacun voit ce que c'est désormais qu'une démocratie et ce que n'est pas une démocratie. J'espère que cette crise a permis de faire un peu cette pédagogie. Bien sûr qu'il y a déjà des journaux, des opinions qui étaient très défavorables à ce que faisait la France et ce que font les Français. Mais une grande démocratie doit accepter le fait que des gens soient défavorables à ce que vous faites. La grandeur de la démocratie, c'est que les gens qui sont pour la dictature peuvent le dire. La difficulté de la dictature, c'est que les gens qui sont pour la démocratie, on les enferme. Donc c'est un peu la différence. Mais là, on voit bien qu'on est dans autre chose. On était rentré dans autre chose qui était une guerre d'opinion, une guerre médiatique, comme vous l'avez extrêmement bien dit, et dont tous les renseignements européens et français nous disaient qu'elles étaient utilisées non pas pour informer, non pas pour créer le débat d'opinion, mais pour lutter contre les intérêts français. Voilà, donc je pense qu'il faut être patriote aussi à un certain moment. On est très heureux que l'Europe soit patriote. Vous savez, le grand débat démocratique, c'est très intéressant. La supériorité de la démocratie, c'est est-ce qu'elle est capable, en temps de guerre, en temps de conflit, en temps de difficulté, de prendre des armes d'autorité ? Voilà, c'est quand même le débat qu'on a tous. Ben voilà, on voit que l'Europe, c'était pas évident, et la France... comme les partenaires européens de la France sont capables de prendre ces armes d'autorité. C'est une très bonne chose. La démocratie est un très beau et grand régime.
Vous avez raison de le souligner. Affirmons et réaffirmons que Poutine est le seul envahisseur agresseur. Il n'y a pas l'ombre d'un doute sur ce sujet. Toutefois, est-ce que, par exemple, ce qui se passe au Donbass depuis quelques années, est-ce qu'en parler, c'est faire de la désinformation ou au contraire, c'est voir tout ce conflit avec une focale un peu plus large ?
Mais pendant très longtemps, je crois que tout le monde a pu en parler très largement, y compris IRT et Spoutnik. Mais ma question a été assez simple. Est-ce qu'on ne trouve pas hallucinant ce qui se passe actuellement en Russie où vos confrères sont désormais, si j'ai bien compris, sous la loi pénale qui consiste grosso modo à dire si on n'est pas conforme aux informations d'État. Je vais extrêmement
les
vite.
Les Russes n'ont plus aucune information aujourd'hui.
Je vais extrêmement vite en le disant. Mais du coup, on peut les punir de prison. Voilà, c'est quand même... La proportion est un peu différente. Voilà, je pense que c'est un régime qui n'est pas totalement démocratique. Voilà, donc je crois que la France et l'Europe ont pris de très bonnes décisions.
Vous le qualifiez comment précisément, ce régime totalement démocratique? On a compris que c'est un euphémisme, évidemment, dans votre bouche.
Moi, encore une fois,
gardez de ce genre de qualificatif.
Il ne faut pas rentrer non plus dans une guerre des peuples. Voilà, la Russie est un grand peuple européen. Il a vocation, je crois, à rester proche du continent européen, pas se rapprocher de la Chine, pas être en guerre dans le monde. Voilà. Mais nous devons évidemment rentrer... aujourd'hui dans une phase où on comprend que les dirigeants russes amènent le peuple russe vers un conflit qui n'a pas d'issue. Voilà. Et donc on doit parler au peuple sans insulter ce grand peuple européen. Mais en même temps, il ne faut pas rentrer dans l'escalade, encore une fois, en s'insultant de chaque côté. Parce qu'à quoi ça mène? Qu'une fois qu'on a épuisé tous les mots d'oiseau, ça mène aux armes. Voilà. Et c'est le contraire de ce que veulent les peuples.
On va marquer une pause, Gérald Darmanin, et en venir à la campagne présidentielle. Elle est en cours, il reste une cinquantaine de jours, et certains candidats, ou quasiment la plupart des candidats, reprochent au candidat Emmanuel Macron de vouloir, non pas du tout se mettre en scène, hein, mais effacer, un petit peu balayer, compte tenu de l'actualité, cette campagne française. Alors, quel risque? Est-ce le cas? On vous en parle dans quelques instants. Une courte pause et on se retrouve.
Europe 1, 10h-11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et notre invité en ce dimanche, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Nous avons évoqué évidemment les conséquences de la guerre en Ukraine. Nous sommes également en France en campagne présidentielle. Et après la déclaration du candidat déclaration de candidature d'Emmanuel Macron via sa lettre et puis la vidéo. Les autres candidats, Gérald Darmanin l'accuse de vouloir enjamber la présidentielle, de vouloir l'escamoter ou l'effacer. Que répondez-vous à ces accusations?
Non mais c'est une plaisanterie. J'ai regardé avant de venir dans votre émission, Madame Le Pen, ça fait 2 ans et demi qu'elle est en campagne électorale. Ça fait 2 ans et demi qu'elle a dit qu'elle était candidate. Monsieur Zemmour, ça fait grosso modo 1 an. Si on part du principe que le faux suspense qu'il avait était en fait une préparation de déclaration de candidature habile. Enfin, une déclaration de candidature quand même. M. Mélenchon, quasiment dès le lendemain de l'élection présidentielle de 2017. Les LR ont fait une longue primaire, qui a été retransmise, et c'est bien naturel, sur les écrans de télévision. Depuis désormais 8 mois, on discute des LR. Bon, cette campagne, elle est lancée depuis très longtemps. Et ça fait très longtemps que le président de la République est attaqué d'ailleurs par les oppositions. Par ailleurs, je voudrais redire que les sujets diplomatiques que nous connaissons sont des sujets de campagne électorale aussi. Ça fait partie du champ de compétences du président de la République que de gérer les affaires du monde. C'est même d'ailleurs pour ça qu'on a tout choisi, me semble-t-il, une grande partie, le général de Gaulle en 58.
C'est parce que nous sommes reproché. Hein. C'est de ne pas accepter de débattre, c'est de se mettre au-dessus de tous de par sa fonction.
Mais le président de la République a dit lui-même
qu'on peut enjamber une présidence.
Mais il n'a pas question d'enjamber. Le président de la République a dit lui-même. Qu'il débattrait, qu'il pourrait avoir la controverse. Il a même dit...
Pas avant le premier tour.
J'y participerai.
Heureusement, entre...
Des débats, il y en aura, évidemment.
Il y en aura avec Emmanuel Macron.
C'est au président de la République de voir. Moi, je constate personnellement, ça fait un petit moment que je suis militant en politique, il n'y a jamais eu un président de la République qui a débattu avec d'autres candidats au premier tour dans n'importe quelle élection que j'ai regardée à la télévision. Si vous en connaissez un, alors peut-être que les temps changent, c'est une autre question. Mais en tout cas, ne disons pas, il ne fait pas comme les autres. Voilà. Bon. Donc... c'est le président de la République qui a même accepté de débattre face à Marine Le Pen quand Jacques Chirac ne voulait pas le faire pour Jean-Marie Le Pen entre les deux tours de l'élection. Donc le président de la République est rentré en campagne, mais en même temps, chacun le comprend, il gère les affaires du monde. Mais on n'avait pas ce débat lorsque les candidats aux élections régionales étaient pendant le Covid. Ils étaient à la fois en candidature régionale, ils géraient leur région, ils géraient le Covid, ils distribuaient des masques, et puis en même temps, ils étaient candidats aux élections régionales. Personne ne leur a dit qu'ils étaient illégitimes ou qu'ils fuyaient le débat. Donc je pense qu'il faut rester raisonnable et être à la hauteur du moment, puisque les démocraties, justement,
c'est
sont
être
regardées.
À la hauteur, c'est être dans l'union nationale, non. Et l'union sacrée avec le président de la République, puisqu'il
non,
gère...
Non, mais c'est pas de trouver des arguments d'estrade. Regardez la campagne des parrainages. Voilà. Pendant longtemps, on a dit, mais on les a pas, mais finalement, tout le monde les a eus. Bon, tant mieux, je m'en félicite pour la démocratie. Bien, vous avez raison, presque tout le monde. Enfin, M. Zemmour, Mme Le Pen et M. Mélenchon en particulier. Donc la démocratie, c'est que tout le monde puisse se présenter, en tout cas ceux qui représentent les courants d'opinion les plus importants. Je pense que tout le monde a largement accès à tous les moyens de communication. Il n'y a jamais eu autant de télé en continu, de réseaux sociaux, de controverses. Et c'est une très bonne chose. Chacun donne son avis à tout moment. Et donc nous irons à la campagne, je crois, en ayant l'envie de pouvoir discuter avec les Français. Moi, je le fais dès lundi dans mon département.
Mais vous êtes ministre, mais c'est le candidat que les Français
vous
veulent voir
le candidat,
leur
voilà.
Projet.
Non, mais il y a des invitations. Je ne suis pas le porte-parole du candidat, je
mais
suis
ministre de l'Intérieur. Mais vous entendez quand même ce qui a l'air sur les conséquences d'une campagne qui serait, je ne dis pas que c'est de fait du président candidat, mais effacée par tout cela, avec des risques de grosses difficultés pour la suite.
Mais moi, je pense que le président de la République n'a pas gagné par avance l'élection présidentielle et que je pense que le risque est grand, notamment au second tour, hein, je le pense vraiment, qu'un candidat d'extrême droite, Mme Le Pen ou M. Zemmour, puisse être... je comprends aussi les difficultés du peuple, j'en suis issu, mon poste me pousse à le voir. Ça fait longtemps que je dis qu'il faut davantage encore d'écoute des classes populaires. Vous savez bien que, je ne sais pas que c'est mon credo, mais c'est là d'où je viens. Je ne suis pas du tout certain que la campagne soit gagnée pour le président de la République.
Pour l'instant, il est surtout dans la protection des Français. Quand on voit son texte et la vidéo, il n'y a pas de proposition de réforme, vraiment. Est-ce que la situation est trop fragile, trop dure pour les Français pour porter ça? Ou est-ce qu'il faut encore qu'il soit réformateur et qu'il mette dans le débat des sujets un peu disruptifs, comme il disait en 2017?
N'ayons aucun doute que le président de la République a un projet qu'il n'est pas encore connu. Il s'est déclaré, voilà, 48 heures. Qu'il le présentera aux Français, et de ce que j'en ai eu à en connaître, il est particulièrement fort et conforme à ce qu'il essaye de faire.
Ça ne transparaissait pas dans la lettre,
depuis
sans vouloir vous faire offense.
Petit à petit. Attendez, il y a 40 jours, vous avez dit même 50 jours jusqu'au second tour.
C'est rien, 40 jours, ça passe comme...
C'est rien et c'est long, voilà.
Ah bon,
c'est rien et c'est long. Donc vous ne vous inquiétez pas, il y aura largement de quoi commenter les propositions fortes du président de la République.
Est-ce qu'il n'y a pas une tension, une contradiction entre d'un côté les appels nécessaires et légitimes à l'Union nationale, à l'Union sacrée, même vu les circonstances, et de l'autre côté, le fait qu'un débat présidentiel, par définition, est contradictoire entre des visions différentes du pays. Est-ce qu'il n'y a pas de tension en ce moment qui pourrait faire mal à la démocratie?
Non, je ne le crois pas. Ça dépend de la dignité des acteurs. Et notre dignité en premier lieu, dans la majorité. Il ne faut pas être prétentieux, il faut beaucoup d'humilité, il ne faut pas croire qu'on a gagné d'avance, bien évidemment. Il ne faut pas donner des leçons, c'est peut-être un peu notre petit défaut de temps en temps, en tout cas dans le 5 ans qui sont passés. Mais il faut aussi que les autres ne soient pas dans l'opposition systématique, qu'ils acceptent d'être un parti de gouvernement, et on ne peut pas dire n'importe quoi à tout moment. Donc, il doit avoir une dignité. Vous savez, là, c'est les acteurs qui font, si j'ose dire, la démocratie. Voilà, ce n'est pas simplement les institutions. Donc, vous avez raison, ça peut être un risque, mais en même temps, je crois que chacun a vu que l'heure était grave. Ce qui est certain, moi, je constate, c'est que pendant l'année qu'on a passée, c'est le président de la République qui a été la cible de toutes les attaques. Les LR se sont perdus.
C'est ainsi pour tout président. Hein. Là, que vous me faisiez référence à Nicolas Sarkozy, dont vous avez été proche,
si
vous savez comment il a été la cible.
Je vous parle d'un temps que, sans doute, les moins désormais de 39 ans ne peuvent pas connaître, quand on était notamment issu du RPR, dont je suis issu, de la droite bonapartiste, gaulliste, classique, orléaniste, parfois pour les gens qui naissent de l'UDF, on attaquait le Front National. On attaquait ses représentants. On ne disait pas qu'au second tour, on pouvait voter pour eux. Voilà, donc je crois qu'il s'est passé quelque chose. Le président de la République, depuis le début de son mandat, et c'est bien normal, mais ça dure depuis un an, alors que M. Zemmour et Mme Le Pen sont très très hauts dans les sondages, c'est lui l'objet des attaques. Ça n'a pas été le camp de l'extrême droite. Et d'ailleurs, je crois que les LR s'en mordent les doigts aujourd'hui. Ils voient bien désormais que leur sujet n'était pas le président de la République, mais comment ils ne parlaient plus à leurs propres partisans, qui en très grande partie, je crois, sont venus soutenir le président de la République, et pour les plus radicaux d'entre eux, sont venus soutenir M. Zemmour ou Mme Le Pen. Donc je crois que le président de la République, ça fait depuis de nombreux, nombreux, nombreux mois qu'il est l'objet d'attaques politiques, on constate qu'il tient la barre. Il a tenu la barre du Covid. Il était en face de la crise sociale des Gilets jaunes, dont chacun sait qu'elle vient de très loin. Et aujourd'hui, il est, et c'est pas lui qui l'a choisi, dans un conflit avec l'Ukraine. C'est pas le président de la République qui a choisi que M. Poutine envahisse l'Ukraine à un mois et demi de la campagne présidentielle. Tout le monde le subit. Bon, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Reporter l'élection présidentielle? On dirait qu'il confisque la démocratie. Maintenir l'élection? Évidemment, c'est constitutionnel et c'est ce que nous faisons. On dit que le débat est privé. En gros, quoi qu'il fasse, il a tort. Donc, je pense que les Français, dans leur grande sagesse, ont compris qu'il était un grand chef d'État. Ça n'empêchait pas de parler de la réforme des retraites, des réformes économiques, de baisser les impôts.
Il ne parle pas du tout dans sa lettre aux Français de vos sujets.
Ça va venir.
Par un mot de sécurité, par un mot d'immigration.
C'est tout à fait faux. Il a cité les policiers, les gendarmes dans la lettre.
Il ne cite
aucune proposition de réforme. Et par ailleurs,
il faut qu'il y en ait dans cette campagne.
Et par ailleurs, le président. Et le président, le candidat, je ne suis pas son porte-parole, aura l'occasion de présenter son projet de candidat. Moi, je n'ai pas vocation, peut-être, à l'accompagner la prochaine fois s'il le souhaite. Donc, laissons le candidat présenter son projet de candidat. Moi, je souhaite d'être un ministre de l'Intérieur à mon poste jusqu'au moment où on me remplacera, si on me remplace. Parce que vous savez, la sécurité des Français, ça peut être, à tout moment, qu'elle peut être compromise. Il y a la crise ukrainienne et il y a la crise terroriste. Je rappelle que l'affaire Mera, encore une fois, c'était quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Donc, en tant que ministre de l'Intérieur, mon travail, bien sûr, c'est de soutenir le président comme candidat, mais c'est surtout d'être ministre de l'Intérieur.
Justement, une question au ministre de l'Intérieur pour conclure. Après l'agression très violente du détenu Ivan Colonna, condamné, je le rappelle, à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, Colonna a été frappé. On a tenté de l'étouffer, son agresseur a tenté de l'étrangler. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. L'agresseur explique, je cite, son geste par un blasphème envers Dieu. Bon, ça laisse peu de doute aux motivations de l'agresseur.
Moi, je ne commande pas des affaires judiciaires en cours, surtout lorsqu'elles sont extrêmement médiatiques. Je voudrais une pensée pour la famille de M. Colonna, comme je veux avoir une pensée pour la famille du préfet Erignac.
Bien sûr.
Mais le parquet antiterroriste s'est saisi, vous l'avez dit, il communique à midi et demi, c'est-à-dire désormais dans une heure et demie. Il va détailler, comme à chaque fois le procureur le fait dans les affaires importantes ou médiatiques. Donc je laisse le soin au parquet de pouvoir dire
c'est
ce qu'il a à dire.
C'est quand même choquant. Les prisons sont sur notre sol, hein. Ce n'est pas un lieu qui est hors de... Donc si c'est potentiellement une attaque... sur une personne à caractère islamiste, cela vous concerne au premier chef.
Mais le Premier ministre a évoqué, indépendamment de l'enquête judiciaire, une saisine de l'administration de la justice, de l'inspection, parce qu'effectivement, il était dans une prison française et qu'on doit savoir ce qui s'est passé.
Vous craignez des tensions, des manifestations en Corse, il y en a eu, empêchant notamment l'arrivée de renforts, de gendarmes. Est-ce que l'île peut être secouée par des tensions?
Non, mais
vous apportez des garanties d'une enquête solide et qui sera menée jusqu'au bout?
Moi, je ne garantis évidemment que l'indépendance des services de la justice à faire leur travail. Donc évidemment que l'enquête est absolument indépendante. Et le parquet, je crois, en prenant la parole, et le parquet antiterroriste, chacun le sait, ce n'est pas n'importe quel parquet. Tous les parquets, évidemment, ont grande compétence. Mais chacun sait que le PNAT est un parquet qui met beaucoup de moyens pour obtenir les vérités. Il y a, je crois, un certain nombre de moyens technologiques pour le savoir de ce qui s'est passé dans cette prison. Il y a eu des auditions, comme vous l'avez souligné, puisqu'elles sont dans la presse, très rapide. Donc, je laisserai le parquet antiterroriste évidemment communiquer.
Merci Gérald Darmanin d'avoir été notre invité pour ce grand rendez-vous spécial. Évidemment, l'actualité ukrainienne a pris grande place et c'est tout à fait normal. Je remercie également mes camarades Mathieu Bocoté et Cécile Cornidet. Je vous souhaite à tous un bon dimanche sur nos antennes communes. Europe 1.